que va nous délivrer Marjolaine. Nous te prions, Seigneur, de la remplir de ton Esprit Saint, d'ouvrir nos oreilles, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous parles jour après jour, à chaque instant. Amen.
Merci. Bonjour à tous. Je ne l'ai pas précisé la semaine dernière, mais c'est une vraie joie pour nous d'être ici. Ça donne cette impression de rentrer chez ses parents. Ce n'est plus vraiment chez nous, mais on revient et on se retrouve à l'aise, on retrouve nos petites habitudes. Et pour vous partager ma joie et fêter ça, je voulais offrir à tous ceux qui sont là et qui sont célibataires un petit conseil love. Si vous avez repéré quelqu'un et que vous voulez passer de la catégorie bon copain à « Ah tiens, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée », un petit conseil, offrez un livre à cette personne. C'est ce que Romain a fait pour moi il y a 11 ans et on est mariés maintenant depuis 10 ans. Il m'a offert ce livre en me disant « Ce livre m'a fait cheminer dans ma foi avec Dieu, lis-le et on en discute ensemble. » Et ce livre, c'est... En français, c'est « Les idoles du cœur » de Timothy Keller. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Ça parle des différentes idoles qu'il peut y avoir dans notre vie, comme l'amour, le pouvoir, la gloire, l'argent, etc., etc. Et du coup, j'ai lu ce livre il y a 11 ans. Et quand je suis arrivée au chapitre sur l'argent, je m'en souviens très très bien, je me suis dit « j'ai pas besoin de lire ça, ça ne me concerne pas du tout. L'argent, je m'en fiche complètement, ce ne sera jamais un souci dans ma vie ». Et je suis passée au chapitre suivant. Mais à l'époque, j'avais 21 ans, aucun engagement financier, j'étais étudiante, j'étais chez mes parents, j'avais mon petit job pour payer mon essence, mes sorties avec les copines, etc., etc. Je pouvais donner un peu d'argent en église, enfin, il n'y avait aucun stress, il n'y avait rien en rapport avec l'argent dans ma vie. Donc, c'était vraiment pas un souci pour moi, quoi. Puis, en avançant dans ma vie d'adulte, quand on a commencé à gagner un peu d'argent, à devoir gérer un budget... Je me suis rendu compte que l'argent pouvait prendre plus de place que ce que je croyais dans mon cœur et mes pensées. Et peut-être que certains d'entre vous ont fait le même constat. Il ne nous faudra pas longtemps pour se mettre tous d'accord sur le fait que l'argent semble diriger le monde. Mais qu'en est-il de notre vie? Et surtout, peut-il en être autrement? Alors je nous invite à y réfléchir en nous mettant à l'écoute de Jésus. Ouvrons nos Bibles. En Matthieu 6, versets 24 et suivants. Matthieu 6, verset 24. Personne ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger un tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est les gens de toutes les nations qui le recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ici, Jésus est clair. Il nous faut choisir notre maître. Alors, on a un petit peu de mal avec ces notions de maître et d'esclave aujourd'hui, mais quand Jésus, lui, utilise cette image, ses auditeurs comprennent instantanément de quoi il parle. L'esclavage au 1er siècle était un peu différent de l'esclavage au 18e, 19e siècle, mais toutefois, il y avait quand même là-dedans une notion d'obéissance complète, de loyauté totale et aussi une question d'appartenance. Un esclave ne pouvait appartenir qu'à un seul maître. Et Jésus parle bien de la situation d'un esclave et pas de celle d'un employé qui pourrait bosser pour deux entreprises, un mi-temps ici, un mi-temps là, pour deux patrons différents, pour deux organisations. Ici, il est question de maître et d'esclave. Ici, il est question d'appartenance. Et il est totalement impossible, incompatible, de se mettre au service de Dieu et des richesses matérielles et de l'argent en même temps. Jésus casse toute illusion qu'il pourrait nous rester. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Il veut nous montrer qu'aucun compromis n'est possible. Ce matin, assis sur nos chaises, au culte, le choix semble simple et évident. C'est vrai. Est-ce qu'on a besoin d'en parler ? Si on vient à l'église, si l'on s'est engagé, si on a collé un ictus à l'arrière de notre voiture, c'est bien qu'on a choisi de servir Dieu. Certainement, notre vie entière appartient à Jésus-Christ. Si nous venons nous asseoir ici plutôt que d'être en train de faire une belle randonnée en montagne. Donc on peut s'arrêter là et repartir content. Mais vous le savez comme moi, la réalité est un tout petit peu plus subtile que cela. C'est pas tellement qu'on choisit de servir Dieu et qu'un jour on se lève du mauvais pied et qu'on se dit « je vais vouer ma vie à Mammon ». C'est plus insidieux parce qu'en réalité, l'attrait pour l'argent, c'est pas simplement une convoitise superficielle ou démesurée. Être esclave de l'argent, ça veut pas dire « je suis prêt à tout pour être aussi riche qu'Elon Musk ». Je peux rouler dans mon scénic cabossé et avoir déjà laissé une partie de mon cœur et de mes pensées, de mon attention, être capturée ou du moins encombré par l'argent, et ce que je pense qu'il peut m'apporter. Comme je vous l'ai dit, à 21 ans, l'argent, ce n'était pas tellement un sujet pour moi. Et puis aujourd'hui, il se trouve qu'on habite dans un quartier avec Romain qui est très agréable, mais où nos enfants peuvent jouer avec plein d'enfants, parce que c'est une grande résidence, mais tous les parents qu'on fréquente gagnent bien mieux leur vie que nous. Ils sont tous propriétaires de leur appart, là où on est locataire. Et quand on discute ensemble, on peut parler des travaux qu'on fait chez nous. Bon, nous, on n'en fait pas, on est locataire. On peut parler des vacances qu'on fait. Alors, nous, on a la chance, mes parents habitent dans la plus belle région de France. On peut venir en vacances en Savoie. Bon, des fois, on est obligé d'aller du côté de Romain, donc on va en Bourgogne. Pensez à nous. Mais quand on discute avec ces copains-là, alors qu'en réalité, Romain et moi, on a la chance de pouvoir finir le mois sans inquiétude, on a ce qu'il faut pour manger, on a un toit au-dessus de nos têtes. Des fois, on a l'impression d'être un peu en retard, quoi. Puis en plus, c'est pas difficile de gagner plus que moi, je suis étudiante. Et on a l'impression d'avoir loupé un train, où on se refait des films, peut-être qu'on aurait dû acheter dès qu'on est arrivé, que c'était pas encore trop cher, tatata. Et ça encombre nos pensées. Et au lieu d'être dans la reconnaissance parce qu'on a ce qu'il faut, on se retrouve à avoir une pointe d'amertume. Et là, on a besoin de discerner et de revenir à ce que Jésus nous dit. Jésus nous invite à choisir ce pour quoi l'on veut vivre. Jésus nous invite à choisir Dieu comme maître et son enseignement nous montre que ce que nous pouvons chercher dans l'argent, en réalité, nous ne pouvons le trouver qu'en Dieu. Personnellement, comme je viens de l'évoquer, c'est plutôt l'amertume ou le manque de reconnaissance qui m'a alertée sur l'état de mon cœur. Mais pour d'autres, peut-être, ce sera l'inquiétude. J'y avais jamais fait assez attention avant parce que dans nos Bibles, ces deux petits passages que j'ai lus sont séparés par différents sous-titres. Il y a Dieu et l'argent, et puis après il y a le sous-titre l'inquiétude. Mais en réalité, le verset 24 et le verset 25 sont très liés. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Jésus fait un lien entre cette inquiétude de manquer, de ne pas avoir assez, et le fait d'avoir choisi l'argent comme maître plutôt que Dieu. Je pense qu'il faut rester attentif à ce que Jésus nous dit sur ce sujet-là, parce que ça nous aide à sortir d'une vision caricaturale de ce que ça veut dire servir Mammon. En réalité, dès que l'on voit dans nos finances, dans nos biens matériels, un moyen d'avoir ce que seul Dieu peut nous donner, on est en train de faire de l'argent un Dieu dans notre vie, de lui donner une place qui ne revient qu'à Dieu, de lui donner une place d'idole. L'argent, c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas notre sécurité. Notre sécurité, c'est lui-même. Et c'est vrai, hein, il est tentant d'amasser pour se rassurer. D'ailleurs, quand Luc y rapporte ce même enseignement de Jésus, il la colle à la parabole de ce paysan qui a rempli ses greniers de grains. Il a rempli et il se pose et il se dit « Ah, ça y est, je suis tranquille. » Et ce soir-là, sa vie lui est redemandée. Qui peut, par son inquiétude, des greniers pleins, des comptes bien fournis, rallonger un tant soit peu la durée de sa vie? Il faut bien le dire, pourtant, manger, boire, s'habiller, ça ne correspond pas trop à une liste d'enfants gâtés que quelqu'un aurait fait au Père Noël. C'est des besoins légitimes. Il faut aussi ajouter que notre contexte actuel tend plutôt à nous rendre inquiets. Le prix de l'essence, l'inflation, la grande instabilité mondiale. Pourtant, au milieu de ces circonstances particulières, comme Jésus, au milieu des circonstances particulières de ses auditeurs, qui pour la plupart dépendaient d'un revenu agricole, donc étaient soumis aux intempéries, au temps imprévisible, à nous aussi, dans notre contexte, qui semble défavorable, qui semble imprévisible. Jésus nous l'affirme, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et quand nous cherchons à nous rassurer par l'argent, nous faisons déjà de l'argent notre Dieu. Jésus nous appelle donc à vivre autrement. Trois fois, il nous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il sait que cette inquiétude, elle est réelle et qu'elle peut être submergente. Mais alors, il nous appelle à ne pas nous inquiéter avec douceur et pédagogie. Il nous montre les raisons pour lesquelles on n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu, le Créateur, merci Alain pour ta première partie, on ne s'était pas forcément mis d'accord, mais Dieu, le Créateur, le Père Céleste, non seulement a créé de belles choses, mais il donne tout ce qu'il faut à sa création, tout ce dont elle a besoin. Pas ce qu'elle pense avoir besoin, pas ce qu'elle veut, mais ce dont elle a besoin. Il est celui qui parle lisse, éphémère du plus beau vêtement. Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter en nous rappelant qui est notre Père et quel genre de Père il est. Jésus nous rappelle également que nous avons de la valeur. Dieu pourvoit aux besoins des oiseaux. Jésus nous dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? La course aux biens matériels, au meilleur train de vie, à la meilleure prime, aux vacances les plus exotiques, à cette course-là, on risque de toujours se faire battre. Si nous devions chercher notre valeur à travers cela, le jeu de la comparaison nous rendrait toujours perdants. Mais respirons, nous n'avons pas besoin de tout cela. Jésus a fait plus que nous le dire, il nous l'a montré. Celui qui enseigne ici concrètement que nous avons de la valeur va nous le montrer en donnant sa vie pour nous. À notre place, il a accepté lui de se dépouiller. Il a été vendu pour 30 pièces. Il a été jugé, humilié. Son vêtement à lui a fait l'objet d'un jeu entre Romains au pied de la croix. Il est mort dénué de toute richesse pour tout nous offrir. Il s'est donné lui-même parce que nous avons du prix à ses yeux. Il nous a donné de la valeur alors même que nous sommes, comme il le dit dans ce texte, des gens de peu de foi. Si quelqu'un venait chercher, au-delà de la sécurité, sa valeur dans ses biens ou sa réussite personnelle, les paroles de Jésus lui montrent que c'est inutile. Il ou elle a déjà de la valeur aux yeux de Dieu. Le sacrifice de Jésus le montre de façon évidente. Et au travers de ce sacrifice, Dieu a déjà pourvu à tout ce dont nous avons réellement besoin. Alors ces vérités ne sont pas nécessairement nouvelles pour nous ce matin. Mais est-ce qu'on prend suffisamment le temps de les contempler, de les méditer, de s'en émerveiller, de se le rappeler quand l'inquiétude pointe du nez ? Jésus nous invite à prendre le temps de le faire. Il nous dit « regardez, observez ». En prêtant attention à la création de Dieu, et plus que ça, à la façon dont Dieu agit envers sa création, nos pensées sont comme recalibrées, nos inquiétudes sont apaisées. Et il y a une place pour nos besoins dans la prière, Jésus nous l'a dit. Demandons chaque jour notre pain à notre Créateur, nous pouvons compter sur lui. Mais nous sommes appelés à vivre pour quelque chose de plus grand. Jésus, par ce texte, ne nous invite pas à la paresse, il ne nous invite pas à rien faire. Ce n'est pas ça que suggère l'image de l'oiseau et d'Ulysse. Je vais me permettre de pousser l'image jusqu'au bout. A-t-on déjà vu, dans le parking, un moineau allongé sur le dos, le bec grand ouvert, attendant que Dieu vienne y déposer un petit ver? Jamais. Le moineau vit sa vie de moineau. Il ne cherche pas à être autre chose que ce qu'il est, à faire autre chose que ce qu'il doit faire. C'est l'homme qui sème, qui récolte. Lui, il vit sa vie d'oiseau, comme elle a été prévue par Dieu. Le lys est ce qu'il doit être. Son pollen est peut-être une source de nourriture pour quelques abeilles, mais pour lui, le simple fait d'être dans un champ, dans toute sa beauté, dit quelque chose de son Créateur. Sa vie bien éphémère témoigne de la créativité, du sens esthétique de Dieu. En étant ce qu'il est appelé à être, le lys témoigne de qui est Dieu. Et nous, que nous revient-il de faire ? Qu'est-ce que l'homme est appelé à être ? À nous qui sommes créés à l'image de Dieu et pour sa gloire. Il nous revient de choisir Dieu comme maître de notre vie, Jésus comme roi. Lui qui nous invite, en nous rappelant la providence de Dieu, à nous décharger de nos inquiétudes qui nous encombrent, pour nous concentrer sur ce qui compte, ce qui est durable, que ni les vers, ni la rouille, ni les voleurs ne pourront atteindre. Porter nos regards sur ce que les autres ont peut semer en nous la graine de l'amertume et du mécontentement. L'inquiétude peut prendre une place conséquente dans notre esprit, alors que, comme le dit Jésus, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? N'y a-t-il pas quelque chose de plus important, de plus essentiel, de plus enthousiasmant, de plus époustouflant? Évidemment, Jésus nous appelle à vivre pour quelque chose de plus grand, à rechercher le royaume des cieux et sa justice. Il nous invite à faire de Dieu le maître de nos vies. Et il ne s'agit pas ici que de discours, il y a des implications très concrètes. Nous devons nous poser ces questions. Est-ce que la façon dont je gère mon budget montre mon attachement à Dieu, ma confiance en lui? Reflète-t-elle la simplicité, la générosité à laquelle correspond la vie d'un disciple du Christ? Est-ce que la façon dont j'investis, dont j'épargne, dont je dépense, dis la même chose que ma prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Chercher le royaume de Dieu et de sa justice, qu'est-ce que ça veut dire pour ma façon de consommer, de dépenser? Alors ce matin, je nous propose de laisser Dieu sonder nos cœurs et de constater ce qu'il met en lumière, ce qui peut-être mérite d'être ajusté dans notre rapport à l'argent ou bien matériel. Ce matin, je n'ai pas envie de donner des règles générales, nos situations sont tellement différentes. Mais je veux nous amener à nous poser cette question un instant. Est-ce que mon rapport à l'argent dit « Dieu est le maître de ma vie » ? En observant combien Dieu pourvoit avec bienveillance à sa création, je peux lui confier mes craintes et il les apaise. En lui demandant de m'aider à ne pas regarder sans cesse ce qu'ont les autres, en lui exprimant ma reconnaissance, en faisant de lui mon maître, je suis en réalité libérée. Libérée pour vivre quelque chose de plus grand, de plus fou, de plus important que moi-même, mon confort et mes priorités. Et je nous invite encore à réfléchir à cela en écoutant cette prière issue du livre des Proverbes au chapitre 30. Mon Dieu, je te demande deux faveurs. Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne de moi les illusions et les mensonges. et combien il y en a dans l'argent et les richesses. Éloigne de moi les illusions et les mensonges, et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant « À quoi le Seigneur sert-il ? » Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Peut-on aujourd'hui faire cette prière ? Seigneur, donne-moi juste ce dont j'ai besoin. Ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Je nous invite à prier. Seigneur, tu vois nos situations financières ô combien différentes. Seigneur, tu vois l'état de notre cœur qui est variable pour chacun. Tu sais ce dont on a besoin aujourd'hui, peut-être d'être rassuré, peut-être que tu nous remettes sur le droit chemin et nous aides à voir tout ce que nous avons déjà au lieu de porter nos regards sur ce qu'ont les autres. Peut-être tu veux nous interpeller sur notre façon d'utiliser notre argent, nos biens matériels, sur notre poursuite vers la réussite. Seigneur, garde-nous de penser comme moi, dans ma naïveté, que cette question de l'argent ne nous concerne pas. Mais donne-nous de te confier nos cœurs et nos chéquiers et nos cartes bleues pour que la façon dont nous utilisons notre argent puisse refléter notre prière, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen.